Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un privilège pour moi d'être ici, dans la région, pour partager avec vous ce soir le sujet actuel. Sommes-nous vraiment dans les temps de la fin? Nous posons la question. Trouve-t-on dans la Bible des arguments irréfutables pour croire que nous vivons aujourd'hui dans les derniers temps et que Jésus-Christ revient bientôt? Sur l'écran, vous voyez donc le mont des Oliviers, vu depuis le mont du Temple à Jérusalem. Sur cette colline, sur le mont des Oliviers, reviendra Jésus-Christ, selon Zacharie 14, verset 3, dans les derniers temps. Alors, sommes-nous dans l'époque où Jésus-Christ reviendra bientôt? Eh bien, avant d'entrer vraiment dans la matière, il faut définir que veut dire le terme « les temps de la fin ». Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez différentes expressions qui expriment tous la même pensée, « les temps de la fin ». Par exemple, en Ézéchiel 38, verset 8, vous avez l'expression « à la fin des années ». Daniel 8, 23, « au dernier temps ». Osée 3, verset 5, « à la fin des jours ». Joël 3, verset 1er, « en ces jours-là et en ce temps-là ». Un terme technique qui revient plusieurs fois. Acte 2, verset 17, « au dernier jour ». 2 Timothée 3, verset 1er, « dans les derniers jours ». Et 1 Jean 2, verset 18, « la dernière heure ». Voilà donc des variations sur un seul thème, les temps de la fin. Et on peut dire que toutes ces expressions, et il y en a encore plus, parlent du temps du Messie. Lorsque le Messie viendra pour régner sur cette terre. Vous voyez, j'utilise déjà de nouveau un terme technique, le Messie. Et je vais expliquer. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible qui a été écrite avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. Cette première partie parle d'un sauveur qui va venir, envoyé par Dieu, le sauveur pour Israël et les autres nations du monde. Il est appelé le Messie. Mais les prophètes l'ont décrit de deux façons différentes. Il y a beaucoup de passages qui parlent du Messie souffrant, qui vient et qui sera rejeté par une grande partie de son peuple, qui sera tué, mais qui mourra comme sacrifice pour nos péchés, pour, justement comme le juste, pour nous les injustes, pour nous ramener à Dieu. Mais d'autres passages parlent du Messie comme le Messie triomphant, qui viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour apporter la paix dans ce monde chaotique. Eh bien, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux descriptions totalement différentes? En fait, ce n'est pas difficile. Parce que c'est prophétie parle de deux venues différentes du Messie. Voilà, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu comme le Messie souffrant. Par sa venue, il a accompli plus de 300 prophéties concernant le Messie souffrant. Et voilà, une deuxième fois, à la fin des temps, le Messie viendra comme le Messie triomphant pour plus comme la première fois, résoudre le problème du péché devant Dieu, mais pour résoudre tous les autres problèmes qui sont issus du problème du péché. Donc, le problème de la guerre, de la famine, des injustices sociales, etc. Alors, ces deux venues expliquent donc ces deux descriptions différentes. Mais il y a une clé pour les différencier. Vous voyez, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé lorsque le Messie souffrant viendra et sera rejeté par la plus grande partie de son peuple, le peuple juif sera dispersé dans le monde entier. L'État juif sera détruit, Jérusalem et le temple détruits, et voilà les Juifs dispersés dans le monde entier. Je vais vous illustrer ça par le texte biblique. Lisons dans Ésaïe 8, un livre prophétique qui a été écrit vers 700 avant Jésus-Christ. Et voilà, au chapitre 8, verset 14, nous avons un passage que aussi les grands rabbins du passé ont expliqué qu'il parle du Messie. Et là, nous lisons, « Et il sera pour sanctuaire et pour pierre d'achoppement et rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, pour piège et pour lacet aux habitants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux trébucheront et tomberont et seront brisés et enlacés et pris. » Vous voyez, le Messie est appelé une pierre d'achoppement. Donc, une raison pour tomber, un rocher de trébuchement pour Israël, pour Jérusalem. Et vous voyez que, à la suite, il y aura donc une catastrophe nationale. Et beaucoup d'entre eux trébucheront, tomberont, seront brisés, enlacés, pris. Et vous voyez, cela correspond à beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament qui décrivent les conséquences du rejet du Messie. Déjà Moïse avait écrit vers 1600 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, époque intéressante. Qu'est-ce qu'il y a eu en Europe en 1600 avant Jésus-Christ? C'est la fin de la période néolithique. N'est-ce pas? On sait pratiquement rien sur l'histoire de l'Europe. Mais ça, c'est l'époque de l'exode d'Israël d'Égypte. C'est l'époque où Moïse écrit les premiers livres de la Bible. Et voilà là, en Lévitique 26, 31, il dit, on entend la voix de Dieu, « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » Et voyez, c'est un fait historique. Après la crucifixion de Jésus-Christ, le Messie souffrant, à l'an 70, après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem, la ville capitale du peuple juif. Ils ont, dans la suite, détruit l'État juif et aussi le temple splendide, appelé le deuxième temple à Jérusalem. Chaque mot s'est accompli. Je continue à citer du Lévitique 26, 32, « Et je désolerai le pays. Et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. » C'est un fait que ce pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu, dans la suite de l'année 70 après Jésus-Christ, à travers, dans un processus de plusieurs siècles, une désolation totale. Le point culminant au 19e siècle. Et je continue dans la citation de Lévitique 26, 33. « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » C'est un fait terrible que depuis l'an 70 jusqu'au 20e siècle, nous pouvons pleurer de environ 13 millions de morts parmi le peuple juif. À cause de ces persécutions et de cette haine contre les Juifs depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. 13 millions à travers des siècles. Et voilà, Deutéronome 28, 64, Moïse écrit, « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. » Et voyez la dispersion mondiale des Juifs, littéralement parmi tous les peuples du monde, à travers les 5 continents du monde, c'est un fait. Alors, il est remarquable, on peut se demander, mais quel est le sens de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie? Eh bien, c'est l'époque où la bonne nouvelle du Messie, Jésus, a été annoncée parmi tous les cinq continents du monde. Et cela était déjà annoncé dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 49, verset 6. Dieu parle au Messie et il me dit, « C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et c'est aussi un fait historique que, à travers les 2000 ans passés, des millions de non-juifs ont reconnu en Jésus de Nazareth le Messie, le Sauveur promis. Des millions ont réalisé, je suis un pécheur devant Dieu. Je n'ai pas vécu selon les commandements de Dieu. Mais Jésus-Christ, le Messie, est mort à la croix à ma place, comme une sacrifice de péché pour mes péchés personnels. Et ainsi, ils ont obtenu la paix avec Dieu. Et c'était même époque où la bonne nouvelle du Messie souffrant a été annoncée dans le monde entier. C'était une longue période juive sans vesta. Et cela a été prophétisé en Osée 3, verset 4, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince. Et sans sacrifice. Verset 5. Ensuite, les fils d'Israël retourneront. C'est-à-dire, retourneront au pays des ancêtres. À la fin des jours. Vous voyez, la fin des jours, la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. C'est tout d'abord la période où le peuple juif retourne de la dispersion mondiale au pays des ancêtres. C'est l'époque où le Messie triomphant va arriver pour apporter la justice et la paix. J'aimerais citer encore plus en détail ce passage intéressant concernant la longue période sans état d'Osée 3, verset 4. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Les rabbins du passé ont expliqué, ici le terme David le roi signifie le Messie. Donc dans les derniers jours, ils vont commencer, comme peuple, à rechercher le Messie. Je continue, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Alors vous voyez, le Messie souffrant, bien, selon la prophétie de l'Ancien Testament, dans la suite, le peuple juif sera dispersé. À la fin des temps, le Messie triomphant va venir, mais dans la période juste avant, le peuple juif va retourner de la dispersion mondiale. Vous voyez ce anti-parallélisme remarquable. Et cela, je vais aussi illustrer par des passages précis de la parole de Dieu, de la Bible. Voyez, en Ézéchiel 38, il s'agit de l'époque des derniers jours où un ennemi du nord extrême attaquera encore Israël. Mais là, Dieu s'adresse à cet ennemi et dit en Ézéchiel 38, verset 8, « Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années. » Voyez, c'est l'expression qui parle de la fin des temps. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël, qui ont été une désolation perpétuelle vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Alors là, vous voyez aussi, la fin des temps, c'est l'époque où le peuple juif retourne au pays des ancêtres.